Midnight, sorti, je sais plus si c'est sur The Idiot ou.
Bon, c'est encore les années 70.
Just for Life, c'est sur les coffrets qui a été édité l'année passée. Ça s'appelle les Bowie Years pour Iggy Pop, bien sûr. À la ramasse à New York, non, à la ramasse à Los Angeles. David Bowie s'enfuit, pas seulement à Berlin, également aussi en France, au château d'Hérouville. Et il ramène, il sauve, je pense qu'il lui sauve la vie, la life, au gars hip-hop, et il lui offre 2-3 albums clés en main.
C'est l'année du punk, 77.
Magnifique. Bah, lui, il est déjà parti vers autre chose, vers un peu du disco, disco rock.
En fait, ça après, de toute façon, Iggy Pop, cet album-là, ça vient aussi un petit peu dans la lignée de ce qu'il a fait avec Low et Rose Lodger, en fait.
Oui, oui, bien sûr.
Final, c'est vraiment toute l'époque et tout
oui,
ça.
Oui, bien sûr. C'est combiné. C'est enchevêtré.
Les deux vont ensemble. Hein.
Exactement, enchevêtré. On arrive à. J'évoquais la drogue pour David Bowie et également pour Iggy Pop. Le morceau, l'un des morceaux où. En fait, je lis très mal l'anglais dans le texte, mais paraît-il que dans ce titre, Station to Station. David Bowie raconte sa déchéance et combien il est mal à cause de la cocaïne et de l'héroïne. Ça n'en demeure pas moins un morceau d'anthologie d'à peu près 10 minutes. Vous avez le temps de préparer à manger pour ce soir.
Ah ouais, je l'ai déjà passé celui-là aussi à l'antenne.
Oui, bah, j'imagine bien que tu les as passés. T'es un garçon bien éduqué et qui a du goût, qui aime prendre les trains aussi.
C'est vrai.
J'ai jamais pris de train de nuit.
Je crois pas non plus.
Ouais, c'est bien. J'essaye. Station to Station.
Ah, c'est pas Kraftwerk. Ça ressemble.
Un privé à Babylone, 611e, avec le petit notebook.
il y a à peu près 12 minutes dans le studio. Ouais, alors je mets ça et bon, on coupera peut-être un peu la fin. Et moi, je t'ai dit, bah, de toute façon, tu vas pas réussir à le couper. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on n'a pas réussi à le couper.
Ce sont les 10
impossible.
Ce sont les 10 minutes les plus courtes du monde.
Non, non, mais il est excellent ce morceau. C'est,
Et Mister Yi le connaît par cœur.
Alors, par cœur, non, mais après,
non, surtout. Il connaît toutes les arcanes de ce morceau.
Oh, bon, après, c'est juste, il y a des références qui sont assez. Sur l'époque, la fin des années 70, il y a pas mal de choses qui sont entremêlées les unes les autres. C'est vrai.
Tu évoquais sur l'entame, Kraftwerk.
Bah, en fait, ça me fait penser à ça, parce que bon, Station to Station, c'est vrai que Bowie parle pas forcément de train, mais plutôt de station. Alors, c'est sur plein de trucs au niveau des croyances, au niveau de plein de choses, mais aussi des prises de drogue et tout ça.
Enfin, il le dit clairement, héroïne.
En parallèle dans tout ça, l'héroïne, la cocaïne, mais après, il va jusqu'à Aleister Crowley. Enfin, il y a plein de références qui sont entremêlées là-dedans. Mais c'est vrai que.
C'est trop tard.
De quoi ?
C'est trop tard.
Oui, it's too late, bien sûr. Et c'est vrai que, bon, là, on est un petit peu. Non, c'est 76, mais l'année d'après, t'as Trans-Europe Express, du coup, là, pour le coup, qui, à la base, parle vraiment de train, mais au sens propre. C'est-à-dire que Trans-Europe Express, c'est le train qui était à travers toute l'Europe, et Kraftwerk a fait un album autour de ça. Et du coup, les références Krautrock de Station to Station vont bien ensemble, ça va bien avec, dans l'année 76-77, dans ces eaux-là.
Dans l'ordre, nous avons évoqué Anne Dorsey. On a évoqué Mick Ronson. Et puis là, il y avait Carlos Alomar, quand même, grand guitariste, qui vient zébrer ce train, ces stations. Et c'est l'une des grandes forces, enfin, reconnaissons-le, on est d'accord, c'est l'une des grandes forces de David Bowie de toujours avoir su s'entourer des meilleurs et de tirer le meilleur parti du talent des gens qui travaillent avec lui.
Ouais, il sait s'entourer, clairement. Et du coup, bon, après, il y en a peut-être qui diront qu'il y a quelques petites périodes creuses, mais par contre, c'est vrai que tu as des musiciens emblématiques de chacune des périodes fortes de Bowie, clairement.
Et puis, il avait un producteur phare avec qui il aimait travailler, Tony Visconti. Il y a une très belle interview de Tony Visconti qui retravaille, enfin, pendant 15-20 ans, ils n'ont pas bossé ensemble, tout le trou des années 80 et début 90. Et il expliquait, je pense qu'avec moi, je donne le meilleur de David Bowie. Le meilleur de David Bowie sort avec moi.
Mais il le savait.
Très bonne interview. Alors, dans les années 2000, il y a un disque marquant. Je crois qu'il est sorti désormais.
2005.
Il est sorti, non, 2000. Et il y a un disque, marquant qui est sorti en vinyle et ça a été une, comment dire, un cataclysme, un renversement. Nicolas Baudard, Nick Bod, fan des fans de David Bowie, un fan éclairé bien sûr, hein, il expliquait David Bowie joue dans notre salon. C'est les fameuses sessions At the Bib.
Ah,
de 68,
oui,
71 ou 72. Elles sont vraiment magnifiques. Enfin, ce sont des enregistrements, mais vraiment, ont été hyper bien travaillés. Mais retravailler de la merde, ça reste des choses pas faciles. Mais là, la qualité du son qui avait été saisi par la BBC, c'est quand même grandiose. Je vous propose l'un de mes titres à moi préférés. J'hésite toujours entre Five Years, mais je crois que c'est Moon Age Daydream. Parce que. Mick Ronson est à son meilleur, me semble-t-il. I'm an alligator. I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be your rock and roll bitch for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Yeah.
rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Une rediff, quoi.
David Bowie, accompagné par cette fois-ci l'homme en boa, un guitariste chauve et avec un boa, qui désormais sévit à Cure, si mes souvenirs sont bons.
Peut-être.
Je me souviens plus de son nom.
Un privé à Babylone.
Je trouve un petit peu bourrin, excuse-moi. C'était des New Killer Stars. J'adore ce titre.
Ouais. Non, j'aime beaucoup cet album aussi. C'est sorti à l'époque et c'est vrai que moi j'ai jamais été trop Bowie, mais c'est vrai que mon père à l'époque avait acheté cet album là en CD et j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était sympa, mais c'est là que j'avais découvert aussi, il y avait elle était pas dans le coin, non, Galine Dorsel était revenue après, ah bah si elle était là, mais dans les chœurs à l'époque, c'était pas encore à la basse, mais du coup j'avais vu Bowie qui défendait cet album là en live, notamment à l'époque où Guillaume Durand faisait une émission sympa qui s'appelait Campus, je sais pas si tu te souviens. Et où il y avait moyen de découvrir justement pas mal de choses sympas et un peu moins mainstream des fois que Taratata. Non. Et c'est vrai que j'avais vu Bowie qui avait présenté cet album-là, Reality, et c'était vraiment très très bien.
Exactly. On va poursuivre avec une collab de Bowie avec Trent Reznor. Ils sont bien les affaires, ce gars Reznor.
Faudrait faire une spéciale Nine Inch Nails un jour.
Ah ouais.
Il y a des choses à faire.
Exactly, avec Atticus Ross.
Ouais, c'est ça.
Allez.
Parce qu'il y a des trucs bien à faire. C'est pas le grand set qui aime bien ça, sûrement aussi. Je pense.
Banco à Bangkok. Jimmy's in America.